Bonsoir à tous, vous écoutez Studio 8, c'est l'heure de Culture Z. Et pour passer ce moment ensemble, je suis accompagné de Lorraine et de toute l'équipe. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir Valentin.
On va parler culture ce soir, et plus précisément, la culture chez les jeunes.
Le ministère de la Culture annonce qu'il y a 56% des Français qui organisent au moins une sortie culturelle par semaine. Si plus de la moitié des Français peuvent s'y intéresser régulièrement, il y a encore une partie de la population qui le fait moins. Alors au cours de cette émission, aujourd'hui, on vous propose des sorties, de la musique, du cinéma et d'autres surprises.
Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux de la radio. On lit régulièrement vos messages. Et puis vous retrouvez cette émission en podcast ainsi que toutes les infos sur le site studio8.fr. La culture chez les jeunes. On explore cette thématique avec nos journalistes qui se sont penchés sur le sujet.
Au programme et autour de la table, Lucille, notre journaliste cinéma, qui va nous parler du multivers. Bonjour Lucille.
Bonjour à tous. On part explorer des contrées inconnues avec la chronique science et cinéma sur le multivers.
Ça promet d'être intéressant tout ça. On parlera ensuite musique avec Timothée et Sofiane. Bonsoir à tous les deux. Timothée, de quoi vas-tu nous parler ?
Salut tout le monde. Et oui, je vais vous parler de plusieurs styles musicaux réunis dans un seul artiste. Vous avez encore un peu de temps pour deviner son nom. Petits indices pour vous faire patienter, il vient de Tours et il est d'origine polonaise.
D'ailleurs, on écoutera un des sons de son album, si je ne m'abuse.
Exactement.
Et puis on fêtera un anniversaire avec toi, Sofiane.
Alors oui, mais pas le mien. Le hip-hop fête aujourd'hui ses 50 ans.
Et dans Culture Z, ce soir, on ira à la rencontre d'un jeune humoriste dans un comedy club qui s'est lancé dans l'aventure du stand-up. On s'intéressera également au Pass Culture pour les jeunes à l'occasion du Salon du Livre qui s'est tenu la semaine dernière à Montreuil. Mais sans plus attendre, on vous propose de chausser vos patins direction la patinoire de Champigny-sur-Marne pour découvrir comment Mathilde Da Silva, entraîneuse depuis 3 ans, partage sa passion en formant la prochaine génération de patineurs artistiques. Une histoire captivante d'héritage sur glace et d'inspiration partagée, rapportée par Lucille D'Anjou et Lorraine Lucio.
Pour vous, ça va faire 2 pas de géant, je me retourne, 1 citron arrière, je me retourne, en haut, en bas, en haut, en bas, je freine.
Nous ne sommes ni en cuisine ni en cours de danse, mais bien à la patinoire de Champigny-sur-Marne, où on y retrouve Mathilde Da Silva, qui est depuis 3 ans initiatrice de patinage artistique pour partager sa passion, mais aussi certaines facultés qui lui servent dans sa vie personnelle.
Quand je donne des cours de patinage, ce que j'aimerais transmettre à mes élèves, c'est une certaine force mentale, je dirais. Parce que quand on fait du sport, en fait, on développe une certaine résistance à l'échec. Et je pense que ça peut nous servir dans le sport, mais aussi dans la vie plus tard, dans le monde professionnel.
Et remonte, remonte, voilà, pointe de pied ouverte.
Je prépare mes cours étape par étape. Je dirais qu'il y a certaines figures de base à apprendre pour pouvoir aller plus loin ensuite dans le patinage. Et après, quand il y a des grandes différences de niveau dans le groupe, je les sépare en fait. J'ai mon groupe, mais disons que certains vont plus travailler sur une partie du saut ou sur un autre saut. Et à l'inverse, les autres vont rester concentrés sur ce qui bloque pour pouvoir aller de l'avant. Après, des fois quand ils bloquent trop, il faut savoir changer de saut et revenir plus tard.
Mais alors, on a en face de nous ces élèves et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous plaît dans les entraînements de Mathilde ?
C'est sa pédagogie, parce que vraiment elle est trop gentille avec nous et quand on n'y arrive pas, elle va pas s'énerver sur nous, elle va essayer de nous expliquer de différentes manières ou de faire des dessins sur le sol pour qu'on comprenne et tout. Elle met pas la pression, elle apprend, elle donne des très bons conseils sans mettre la pression et vu que je suis quelqu'un qui stresse facilement, bah c'est super d'être détendue quand j'apprends.
Et Mathilde, elle nous remotive bien et tout, quand on lâche un peu l'affaire, elle nous dit mais non t'inquiète, vas-y.
Elle me laisse pas dans ma zone de confort. Elle veut toujours qu'on fasse plus, même si c'est pas du tout réussi, même si c'est totalement raté. Elle veut toujours qu'on aille plus loin, nous donne toujours les bons conseils pour réussir la figure en question.
Si cette initiatrice est aussi impliquée pour la réussite de ses patineurs, lorsqu'ils doivent passer leur lame, c'est-à-dire une médaille de validation des acquis pendant l'année, l'attente des résultats pour le coach est aussi difficile que pour les élèves.
Des fois, je stresse pour eux. Je me dis, je sais qu'il mérite de l'avoir, je sais que c'est une personne qui stresse beaucoup et si ça se trouve, bah, peut-être que c'est pas son jour aujourd'hui, ce serait dommage quoi. Mais je suis quelqu'un d'assez positif, on va dire, dans le patin. Du coup, je leur dis, bah, on se calme, je sais que tu sais faire, ça fait des mois et des mois qu'on travaille, tu vas y arriver. Enfin voilà, je les encourage et je connais leur niveau et je les envoie pas nulle part. Donc après, normalement, ça se passe toujours bien, donc je suis toujours super contente quand ils me disent « Ah Mathilde, j'ai eu ma médaille !» Et en général, ils font confiance à leur prof, donc ils y vont, ils le testent et ça fonctionne, quoi.
Une entraîneuse très impliquée pour la réussite et le plaisir de ses élèves. Personnellement, ça m'a donné envie d'aller à la patinoire.
Ah, moi aussi, mais encore, il faut savoir tenir sur ses pattes.
Hein. Oui, c'est vrai que c'est mieux, mais avant, on ira voir Mathilde pour une petite initiation.
Vous écoutez Culture Z sur Studio 8. Ce soir, on s'intéresse à la culture chez les jeunes dans plusieurs domaines. Dans quelques minutes, on ira à la découverte des jeunes humoristes qui remplissent les salles des cafés-théâtres. Mais avant, comme chaque mercredi, place au cinéma.
Valentin, est-ce que tu aimes les films de science-fiction et de super-héros ?
J'adore ça, mais je dois vous dire que je suis un peu perdu avec la temporalité de certains films. Le multivers, ça vous parle ?
Non, pas vraiment, mais Lucille, tu nous fais voyager dans le multivers et Claire, nous, on embarque avec toi.
Et oui, aujourd'hui, on parle du multivers, un terme qui n'est plus réservé qu'aux nerds, mais que le grand public connaît aujourd'hui. La franchise Marvel utilise ce concept dans ses films et séries. Je pense par exemple à la saison 2 de Loki, dont le dernier épisode est sorti en novembre. Le film Everything Everywhere All at Once, sorti l'année dernière, explore aussi cette thématique. Le multivers a d'ailleurs fait partir les scénaristes un peu en vrille dans ce film, pour notre plus grand plaisir.
Mais alors que disent les scientifiques de cette idée un petit peu loufoque ?
Bien, pour comprendre ce qu'est le multivers, il faut d'abord savoir définir un univers. L'univers, c'est l'ensemble de ce qui existe, l'ensemble de toutes les choses et de tous les êtres. Le problème, c'est qu'il est tellement grand que les scientifiques ne connaissent pas les limites de l'univers, si tant est qu'il y a des limites. Il y a donc ce que l'on appelle l'univers observable, défini par des limites dans l'espace et le temps qui caractérisent ce qu'on est capable de voir depuis la Terre.
Mais alors ça, Lucille, c'est pour l'univers, mais alors comment définir réellement le multivers ?
Eh bien, le multivers, c'est l'idée que plusieurs univers pourraient exister au-delà de cet univers observable. Ensuite, il y a plusieurs théories quant à la forme que ce multivers pourrait prendre. Vous allez voir, c'est des théories scientifiques assez farfelues. J'avais un peu l'impression de lire des théories du complot pendant mes recherches.
Mais alors, quelles sont les théories les plus connues ?
La première théorie s'appelle la mousse d'univers. Elle a été établie par le physicien Andrei Linde. Le principe, c'est que de nouveaux univers apparaîtraient en permanence et très rapidement, un peu comme des bulles qui popent d'un seul coup. Et chaque univers aurait ses propres constantes et ses propres lois physiques.
La mousse d'univers, c'est sacrément poétique tout ça, mais j'imagine qu'il y a d'autres théories.
Oui, il y a une autre théorie donnée par le physicien Hugh Everett en 1957 qui s'appelle la théorie des univers multiples. Elle est basée sur la physique quantique, une branche de la physique qui étudie l'extrêmement petit. Donc pour résumer, selon cette théorie, l'univers se scinde en plusieurs branches dans lesquelles toutes les probabilités se réalisent. Donc par exemple, admettons que je lance un dé, il y aurait en tout 6 univers dans lesquels chacune des faces du dé est révélée.
Et ces théories sont-elles réellement possibles ?
Bien, c'est des théories qu'on retrouve dans la fiction, mais qui sont assez controversées dans la communauté scientifique. Le cosmologiste George F.R. Ellis, qui a notamment coécrit avec Stephen Hawking, explique que selon lui, les multivers sont des spéculations philosophiques scientifiquement prouvées. On ne peut pas donc pour l'instant dire si ces multivers existent ou non, mais en tout cas, ils existent bien dans notre imagination et dans celle de notre ami Spider-Man qui est plutôt, vous allez le voir, convaincu par ces théories.
Excusez-moi, en gros vous confirmez l'existence d'un multivers ? Parce que moi je pensais que c'était qu'une théorie, ça remet totalement en cause notre vision de la singularité initiale. En fait là, on parle d'un système en continuelle expansion et comment ça interagit avec les fluctuations quantiques, c'est du délire ! Je suis désolé. C'est vraiment cool.
Merci Lucille pour cette chronique. La prochaine fois qu'on regardera un film de super-héros, on fera attention à tout ça et peut-être qu'on sera un peu moins perdu. Merci à toi.
Après avoir plongé dans les univers parallèles, passons à l'univers du stand-up, là où l'humour défie les limites de la réalité. Tout de suite, le reportage de Timothée Peignet et Valentin Fargier.
Le week-end approche et quoi de mieux qu'un bon spectacle de stand-up pour relâcher la pression ? Surtout qu'à Paris, ce ne sont ni les lieux ni les humoristes qui manquent à l'appel. Les réseaux sociaux et la crise sanitaire ont fait naître de nouveaux lieux d'humour et de nouvelles pépites. Et pourtant, trouver un lieu pour jouer reste très difficile, comme l'explique Pierre Hertoux, humoriste installé à Paris.
Il y a beaucoup de salles qui ouvrent, surtout ces derniers temps. Ça s'est beaucoup développé depuis le Covid. Mais malgré tout, ça reste compliqué de jouer parce que on est énormément. Il doit y avoir plus d'un millier d'humoristes maintenant sur Paris. Moi, quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, on estimait qu'on était 500 et on disait « Waouh, c'est énorme !» Le nombre de places s'est multiplié, mais le nombre d'humoristes s'est encore plus multiplié.
Et qui dit plus d'humoristes, dit plus de demandes pour jouer. Résultat, ce sont les humoristes eux-mêmes qui vont démarcher les lieux d'humour, comme l'explique Inès Feillon, programmatrice du Joke.
J'aimerais bien que ce soit moi qui aille vers eux, mais c'est souvent eux qui viennent en disant « Est-ce que t'as vu mon passage ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ?» Mais dans la norme, c'est toi qui es censé juste regarder tout le monde et aller vers la personne qui te dit « Bah ok, c'est super ça, on va travailler plus, je vais te mettre plus de dates, etc. » Mais la plupart du temps, c'est les humoristes qui viennent te réclamer. Mais en même temps, c'est normal, ils sont motivés, ils ont faim, ils veulent faire ça de leur vie.
Les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité dans cette arrivée massive d'humoristes sur les scènes françaises, mais il ne faut pas oublier la différence entre le monde réel et le monde numérique. Et ça, Pierre Ertoul l'a bien compris.
Il y a plein de personnes qui se disent « Tiens, je suis drôle sur les réseaux, bon bah je vais être drôle sur scène. » Non, les gars, c'est un autre métier qui n'a rien à voir, qui demande beaucoup plus de travail, de sérieux, entre guillemets même un peu plus de talent peut-être, parce que faut avoir un peu plus le truc. Sur les réseaux, on peut plus habiller tout ça avec les codes des réseaux. Stand-up, il n'y a pas de code, quoi. Dès que tu veux tester la moindre blague, il y a un public qui te juge. Mais ça veut pas dire, il y a des gens qui arrivent des réseaux, qui montent sur scène et très vite c'est efficace. Et à l'inverse, t'as beaucoup d'humoristes de scène qui vont finalement peut-être ramer un petit peu sur scène. Et puis d'un seul coup, les réseaux, ils vont découvrir qu'ils sont super bons sur ce créneau-là et ça va booster leur carrière.
Et pour tous ceux qui voudraient se lancer, ayez bien en tête qu'il est très difficile de véritablement percer et vivre de ce métier. Le salaire des humoristes dépend de la générosité du public. C'est eux qui payent à travers ce qu'on appelle le chapeau. Et qui de mieux que Pierre Ertoul pour nous expliquer comment ça marche ?
Un chapeau, c'est très simple. On attend, avec, très souvent, c'est un seau à champagne. Et en gros, les gens mettent de l'argent dedans, ce qu'ils veulent. L'idéal, c'est quand même de mettre des billets, de mettre un peu d'argent. Et ensuite, nous, on fait le total et on se le partage entre humoristes. Il n'y a pas de tarif imposé, puisqu'évidemment, ça dépend des gens. Tout le monde n'a pas les mêmes budgets et on est très ouvert là-dessus. C'est même l'idée, c'est que nous, on préfère proposer des spectacles souvent où l'entrée est gratuite. Comme ça, on interdit la culture à personne. Mais en général, ça donne entre 10 et 20. Les gens ne se rendent pas forcément compte aussi de l'écosystème que ça représente. Eux, ils ne voient pas. Donc, c'est pour ça qu'on leur explique. On essaye souvent de rappeler que, tu vois, on est capable de mettre 10 euros dans une pinte ou à Paris, ça met des 20 euros dans des vieilles planches qui, au final, sont claquées. Donc, on dit, allez, donner de l'argent dans un être humain. Et c'est ce qui nous fait vraiment vivre.
Et même si le métier est très difficile, merci à tous les humoristes de nous faire rire. Parce que le rire, c'est finalement le meilleur antidépresseur qui puisse exister.
Après une bonne journée de travail, est-ce que ce serait pas la sortie idéale pour décompresser et rire un peu ?
Ah mais complètement, je retiens l'idée. Super, allez voir des spectacles de stand-up. Et à présent, on va parler musique avec toi, Timothée, mais pas de n'importe quel type de musique.
Et ouais, et si on parlait de rap ?
Je sais pas, on en parle déjà beaucoup, non ?
Bon, de reggae alors.
Allez, pourquoi pas.
Bon, je te sens pas emballé, tu préfères peut-être la musique électronique ?
Je comprends pas trop où tu veux en venir là.
Calme-toi, écoute, c'est très simple, prends ces trois styles de musique, mélange-les et tu vas obtenir un artiste qu'on appelle Bigarangs.
Je dois dire que tu nous as donné envie d'en savoir plus, alors présente-le-nous.
Bigarangs pour la scène, Telly Del Mundo pour la production et enfin Gabriel Piotrowski pour la vie. Le rasta blanc originaire de Tours a bien des noms, mais ils sont tous reliés par une chose, le rub-a-dub.
Mais c'est quoi le rub-a-dub ?
Eh bien c'est simple, le rub-a-dub c'est un courant du reggae qui mélange des rhythm, des sons de basse et de batterie, et du toasting, un style vocal où l'artiste chante de façon monotone sur un rythme ou un battement. Et pour Bigarangs, ça va plus loin, on a l'impression d'entendre un mec défoncé sous codéine, et ça, c'est lui qui le dit.
Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, sa musique ?
Eh bien, sa musique, c'est la modernité, c'est le reggae moderne. Fini le roots pur et dur, place à la musique électronique. Muni de son OP1, un synthétiseur portable, le Tourangeau façonne sa musique n'importe où. Une chambre d'hôtel, un parking, rien ne l'arrête. Mais le plus fascinant, c'est sa facilité à assembler des styles. Inspiré par les productions aériennes du rap américain qu'on nomme le cloud rap, Bigarangs propose ainsi sa version, le reggae cloud. C'est-à-dire un reggae qui se veut nuageux, plus lent, plus spirituel, avec des voix noyées dans les réverbes, des textes abstraits, constitués d'une dizaine de phrases, et cela donne presque un effet de transe.
Mais alors là, Timothée, tu nous parles beaucoup de sa voix depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Et ouais, parce que sa voix, c'est ce qui constitue son identité avec son image de petit blanc qui fait de la musique de noir. Pour vous la décrire, c'est comme si vous chantiez sans articuler, sans ouvrir la bouche, sans insister sur les P, les F ou les B. En gros, sans que vos lèvres ne se touchent. Mais je vais vous faire un exemple pour que ce soit plus clair. Tiens, Lorraine, donne-moi une phrase.
Dis-nous, papa, tu peux nous donner une bouteille d'eau, s'il te plaît ?
Parfait. Pour Bigarang, ça donnerait « Papa, tu peux me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît ? Et c'est cette nonchalance et ce style nouveau qui attirent de plus en plus d'auditeurs. Mais alors attention, ça peut paraître drôle, mais c'est un exercice qui est très compliqué, puisqu'il faut quand même rester intelligible, et c'est pour ça que Bigaranx la travaille dur. Selon certains de ses amis comme Manu Digital, c'est sur l'enregistrement de sa voix qu'il est le plus maniaque.
Et toi, personnellement, qu'est-ce que t'aimes chez Bigaranx ?
Ce que j'aime, c'est cette capacité à innover avec l'époque actuelle, sans dénaturer la musique à laquelle il se rattache. Alors oui, ça change du reggae dont on a l'image, mais on retrouve tout. Le skank sur le deuxième et le quatrième temps, les rythmes, et j'en passe. Et puis cette identité, cette voix, il est le seul artiste qui arrive autant à m'atteindre au plus profond de moi. Je suis triste, j'écoute Bigaranx, je suis en colère. J'écoute Bigaranx, je suis heureux. J'écoute Bigaranx. En fait, Bigaranx, c'est mon psy, c'est mes séances de thérapie. Sa musique, je ne la ressens pas, je la vis.
Bah écoute, merci Timothée pour cette découverte, et je vous en propose une petite séance du coup. On a été éveillés, tu nous as éveillé notre curiosité, et je te propose qu'on écoute un titre de Bigaranx justement. 50 centimes, c'est maintenant sur Studio 8.
Ils disent que t'as tes mères en ont mal aux dents. Souviens-toi et amigo, le solidaire escarot rocke pas les hauts. Merci Seigneur, mon Seigneur, j'ai pas les mots. J'suis encore là, 15 ans plus tard, j'ai pas de sous. C'est dans l'amour que je veux le score. J'ai le cœur d'hier, mon cœur fait tant d'efforts. Ça vient de l'air, j'me rends mon feu droit du nord. Ça vient du vieux temps, ça va que ça s'empire des corps. Et rien que ça traite, t'es magnifique dans la ville. Avec mes bras à une sopière, plus d'un 50 centimes. Qui sait des morts, pourquoi cet imbécile? Je vois ton cœur dans tes yeux, pas besoin de foncer ses sourcils. Qui s'appelait test, les cas sont positifs. À la Covid, alcool et cannabis. Dans mon doudou que je sens des gros canifs. Ils sont prêts à tout. C'est calife. Et rien que ça traite, toute ma nique dans la ville. Avec mes bras à une sopière, plus d'un 50 centimes. Qui sait des morts, pourquoi cet imbécile? Je vois ton cœur dans tes yeux, pas peur de foncer ses sourcils. J'suis dans le VD, j'bois une soirée. Sur mon tusquet, 18 à l'heure. Mais mes doudous, c'est affolant. Ils disent que t'as tes mères en ont mal au temps. Souviens-toi et amigo, le solide escarot rocke pas les hauts. Merci Seigneur, mon Seigneur, j'ai pas les mots.
C'était Bigaranx, 50 centimes sur Studio 8.
On passe cette fin d'après-midi ensemble. Culture Z, c'est chaque soir à 17h sur Studio 8. Si vous prenez l'émission en cours, pas de souci. Retrouvez dès maintenant les chroniques précédentes et les dernières émissions sur l'application mobile Studio 8. Aujourd'hui, on s'intéresse à la culture chez les jeunes.
Et après avoir parlé du reggae, on change d'époque pour parler de hip-hop avec toi Sofiane, et on fête un anniversaire.
Oui, aujourd'hui c'est le 50e anniversaire de ce mouvement musical et culturel.
Parce que le hip-hop c'est plus que de la musique je suppose.
Bien sûr, en plus d'être un genre musical qui mélange des rythmes rapides, des paroles souvent engagées, des techniques de mixage et de scratch, le hip-hop c'est aussi une culture qui regroupe des pratiques artistiques comme le graffiti, le breakdance ou le beatbox. Mais c'est aussi une philosophie qui prône la créativité, le respect et la paix.
Mais alors raconte-nous comment est né le hip-hop ?
Alors, il faut remonter au début des années 70 dans le Bronx, un quartier populaire de New York. Là-bas, des jeunes issus de différentes communautés se réunissent autour de soirées appelées block parties, où ils font danser la foule avec des platines et des amplis. Parmi eux, il y a DJ Kool Herc, considéré comme le père fondateur du hip-hop. Il invente le breakbeat, qui consiste à isoler la partie la plus rythmée d'un morceau et à la répéter en boucle. Il inspire ainsi d'autres DJ qui vont enrichir le son du hip-hop avec des influences funk, soul, disco ou avec des artistes comme Afrika Bambaataa ou Grandmaster Flash. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back.
Et donc ça c'était du rap?
Non, mais le rap va s'inspirer de ce mouvement et lui donner un nouvel essor. C'est l'art de déclamer des textes en rythme sur une musique. Les premiers rappeurs sont des maîtres de cérémonie qui animent les soirées avec des phrases accrocheuses et des jeux de mots. Parmi eux, il y a Melmel, Curtis Blow, Sugar Hill Gang qui vont populariser le rap avec des tubes comme V-Message ou Rapper Delight. Le rap va ensuite se diversifier avec des courants comme le gangsta rap, le rap conscient ou le rap alternatif.
Mais Sofiane, c'est pas seulement un mouvement américain, n'est-ce pas ?
En effet, il va aussi s'exporter dans le monde entier, notamment en France, où il va connaître un grand succès avec des artistes comme NTM, IAM, MC Solar. Aujourd'hui, le hip-hop est toujours vivant et en constante évolution. Il continue à exprimer les joies et les peines de ceux qu'il pratique à travers des styles variés et innovants. Le hip-hop, c'est plus qu'une musique, c'est un mode de vie.
Scène, scène, hystère, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, ça n'est, c'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début.
Merci Sofiane pour ce rappel, la musique se partage et se transmet au fil des années.
On parle de sorties culturelles, d'artistes, d'histoire depuis le début de cette émission, mais pour favoriser l'accès à la culture, l'État joue aussi un rôle important, notamment avec le Pass Culture mis en place pour les jeunes de 15 à 20 ans.
À l'occasion du Salon du Livre à Montreuil qui vient de se finir ce lundi, nos reporters Delphine Bezin et Sofiane Amaïdi se sont rendus sur place pour interroger une déléguée du ministère et les ambassadeurs du Pass Culture.
Nous sommes au Salon du Livre et de la Pré-Jeunesse, au stand du ministère de la Culture, pour rencontrer les représentants du Pass Culture et leur ambassadeur qui présentaient aujourd'hui leur coup de cœur lecture de l'année. Le Pass Culture fait partie d'une démarche du ministère de la Culture pour inciter les jeunes de 15 à 20 ans à se diriger vers des activités culturelles. On vous présente cette initiative.
Je fais partie de la direction du développement du Pass Culture. Le Pass Culture, en gros, c'est un dispositif du ministère de la Culture qui s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans. L'idée, c'est de permettre aux jeunes, donc c'est vraiment les objectifs du Pass, de permettre aux jeunes d'accéder à la culture. Donc très concrètement, ça veut dire que les jeunes, à 15 ans, ils vont pouvoir télécharger l'application du Pass Culture, c'est une appli, activer leur compte, et là, ils vont toucher à 15 ans 20 euros par an. 16 et 17 ans, ils vont toucher 30 euros par an. Et à 18 ans, c'est un peu le pompon, c'est 300 euros. Et moi, j'interviens plus précisément dans le lien et l'animation des groupes de jeunes et aussi en particulier des ambassadeurs du Pass Culture et des ambassadeurs de l'Île-de-France, du coup, qui sont un groupe de 60 jeunes et qui sont un peu nos porte-parole auprès de la jeunesse.
Salut, c'est les ambassadeurs du Pass Culture.
Être ambassadeur, ambassadrice, c'est tout d'abord être un jeune qui bénéficie du Pass Culture. Et notre rôle, en fait, c'est de partager nos expériences, les événements auxquels on participe, comme des visites de musées, des avant-premières de cinéma, des concerts. On a des places de concerts et en plus de ça, on visite les backstage. Tout ça, en fait, c'est à partager sur nos réseaux sociaux. Là, on a un compte Instagram, ambassadeur.île-de-France.
Du coup, aujourd'hui, on a été invités au salon et notre but, c'était de parler de nos coups de cœur lecture. Donc, on a présenté certains livres, on a pu discuter aussi avec d'autres lecteurs, lectrices de livres.
Et notre présence sur le salon, en fait, nous, on est sur le stand du ministère de la Culture parce que c'est une demande, en fait, du ministère. Donc, il y a une grande campagne de communication qui a été lancée par le ministère de la Culture là-dessus, de vraiment promouvoir et inciter les jeunes à revenir ou à venir tout court dans les bibliothèques. Donc on avait cette proposition du ministère de tenir notre stand et aussi d'animer une partie de la journée, ce qu'on a fait avec les ambassadeurs du coup, qui présentaient leur coup de cœur lecture. On met vraiment en avant les lieux, que ce soit bibliothèque ou librairie, sur l'application. Qui est géolocalisé, donc un jeune, quand il ouvre son appli, il va pouvoir voir dans quelle bibliothèque ou dans quelle librairie il peut aller à côté de chez lui pour emprunter des livres, pour les acheter ou même pour faire plein d'autres activités.
En fait, on a des sélections pour nous par rapport à ce qu'on a déjà acheté. Et en plus de ça, on n'a pas forcément 300 euros à dépenser dans des livres chaque année. Donc ça nous permet de prendre des livres qui sont pas forcément des coups de cœur à la base, mais juste qu'on peut découvrir comme ça grâce à un budget qui nous est donné, clairement.
Voilà, vous savez tout. Si vous avez entre 15 et 20 ans, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application du Pass Culture pour vous faire kiffer.
Merci à tous nos journalistes qui ont préparé cette émission Culture Z, la culture chez les jeunes, une émission pleine de découvertes.
Merci à Timothée, Sofiane, Lucille, ainsi qu'à Delphine, notre rédactrice en chef, et à Marie à la réalisation.
On se retrouve demain à 17h sur Studio 8. En attendant, retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast et toutes les informations sur le site de studio8.fr.
À demain, belle soirée sur Studio 8.